Je vous remercie pour cette introduction et également pour l'invitation qui me donne l'occasion donc de situer le syriaque dans le concert des langues que nous avons déjà évoqué depuis ce matin. Et le concept de hiéroglossie m'intéresse particulièrement parce qu'il est très bien adapté à l'évolution du syriaque comme forme d'araméen de Mésopotamie du Nord. Je vous mets à l'écran une carte qui rappelle les zones d'emploi de l'araméen sur la longue durée, c'est-à-dire depuis l'araméen d'Empire dont il était question ce matin jusqu'au néo-araméen qui sont toujours utilisés aujourd'hui par un certain nombre de locuteurs, en particulier en Turquie et en Turquie, Syrie et Irak. L'araméen, comme vous le voyez sur cette carte, n'est pas singulier, il est pluriel dans ses formes au long de l'histoire, dans sa géographie et également dans ses usages. Et donc le syriaque, qui est une forme d'araméen de Mésopotamie du Nord, autour de la ville d'Édesse, dans la région de l'Osroène, a une dimension toute particulière parce que cette langue a été une langue de culture et une langue religieuse et n'a jamais véritablement été en tant que telle une langue portée par un État. Et c'est cela qui m'intéresse aujourd'hui. Il a été question à plusieurs reprises des travaux de Sheldon Pollock sur le cosmopolitisme. Et de fait, cette notion est utile pour comprendre les rapports entre le syriaque et le grec, par exemple, en tant que langue d'empire, ou entre le syriaque et l'arabe comme autre langue d'empire à partir de la période islamique. Mais ce concept ne permet pas de rendre compte de ce que représente le syriaque vis-à-vis de l'araméen, d'une part, et du syriaque vis-à-vis d'autres langues, dont, par exemple, le turc ou l'arabe, dont il a été question également ce matin, en partie, d'ailleurs, à la période pré-islamique. Et donc, je voudrais, dans cette communication, jeter un éclairage sur certaines régions ou certaines périodes et certains usages également du syriaque, en m'intéressant également à la question de l'écriture, d'où l'intitulé de la communication, puisque l'écriture est indissociable de la langue, ou en tout cas de la manière dont cette langue est perçue et utilisée, puisque le syriaque, nous l'avons entendu ce matin, a été utilisé pour écrire aussi d'autres langues que le syriaque, par exemple des langues turques, mais aussi l'arabe, avec le phénomène du Garchouni sur lequel je reviendrai. Et donc le concept de hiéroglossie, pour moi, permet de comprendre comment est né le syriaque. Le syriaque est, je le disais, une forme d'araméen. Vous avez ici un exemple d'une des très belles mosaïques édesséniennes, ou en tout cas osroïniennes, découvertes portant une iconographie qui est une iconographie inspirée de la culture grecque. Nous avons ici un très bel Orphée jouant de la lyre et domestiquant les animaux. Dans un costume qui est traditionnel pour les représentations que nous en avons un petit peu partout en Asie mineure et ailleurs, et des inscriptions qui sont des inscriptions en syriaque. Cette mosaïque est datée dans le cartouche que vous avez à gauche de l'image, à gauche de la mosaïque, elle est datée de l'année 194. Donc nous sommes là dans un monde qui est un monde romain. Édesse vient d'entrer sous la domination de l'Empire romain. Et donc, dans un milieu, vous le voyez, très multiculturel, c'est-à-dire un monde à la fois de culture grecque, très hellénisé, un monde politiquement romain, mais un monde également où l'on utilise des formes d'araméen local, à côté, bien évidemment, du grec. Cette forme d'araméen édessénien, on la trouve également dans des documents d'archives qui sont très peu nombreux, à vrai dire, on en a une poignée trouvée sur les bords de l'Euphrate, et ce sont des documents datés des années 240. On en a plusieurs, uniquement en syriaque ou en syriaque et en grec. Vous le voyez, ce sont des formes de lettres extrêmement cursives, et c'est une écriture qui est une écriture notariale, utilisée pour les actes de la pratique, les actes de la vie courante. Et ces documents sont intéressants parce qu'ils nous disent que des copies de ces actes de vente ont été donnés bien évidemment aux vendeurs et à l'acheteur, mais également déposés dans les archives de la ville d'Édesse. Et les archives jouent un rôle tout à fait fondamental, puisque dans une tradition mésopotamienne ancienne, on a continué à écrire en araméen à Édesse sur une assez longue durée, puisque au IIIe siècle encore, nous avons ces documents. Et si l'on cesse ensuite d'avoir en tout cas des témoignages de l'existence de ces documents, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a plus existé ensuite, on n'a aucun moyen de savoir quand cesse cette pratique, mais nous avons très peu de documents conservés dans ces régions, puisqu'à la différence de l'Égypte, aussi bien la situation politique que le climat se sont ligués pour, si vous voulez, empêcher la préservation des documents d'archives. Donc nous en avons très peu. Cette écriture notariale, c'est une écriture de l'araméen et des Sénéens. Peut-on déjà parler du syriaque ? C'est une question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie l'araméen et des Sénéens du syriaque ? Le syriaque est désigné comme tel par les auteurs chrétiens, et de fait, ce qui fait la différence entre le syriaque et d'autres formes d'araméen du Proche-Orient, c'est que nous avons une littérature qui s'est développée avec la christianisation. Et donc, en ce sens, on peut parler de l'émergence du syriaque comme hiéroglosse araméenne, parce que le syriaque est la langue des chrétiens, de langue araméenne de la région, et va être utilisée au-delà des populations de langue araméenne, vers l'Iran et l'Asie centrale, puis l'Inde et la Chine, comme langue religieuse. Et cette langue, comme cette écriture, évolue au moment de la christianisation, d'une manière qui nous est partiellement cachée, puisque nous avons peu de documents, je le disais, de documents en tant que tels. Et nous avons surtout un trou entre ces documents des années 240 et le plus ancien manuscrit syriaque daté, qui est daté de 411 et qui consiste principalement en traductions d'auteurs grecs en syriaque. On voit bien que l'écriture n'est pas la même que celle des documents d'archives. Et les termes utilisés pour désigner les auteurs, ceux qui ont écrit ces documents, ne sont pas les mêmes non plus. Ce sont des séfrés, des notaires, des scribes qui ont écrit les documents de la pratique. Ce sont des copistes dont le nom Kotouba est formé sur la racine Katav, écrire, qui sont ceux qui ont copié ces manuscrits. Et ces manuscrits sont copiés dans un contexte qui est un contexte chrétien, dans un contexte monastique. On a un certain nombre de copistes qui se déclarent copistes et décéniens, c'est-à-dire d'Édesse, alors même qu'ils ne viennent pas d'Édesse, parce qu'il y a là une tradition d'écriture livresque, syriaque à proprement parler, qui s'est développée dans cette ville à côté des pratiques proprement archivistiques. Et notre problème, si vous voulez, est que nous ne savons pas comment s'est faite la transition entre cette écriture de chancellerie des documents et l'écriture livresque qui apparaît donc dans ce plus ancien manuscrit daté de 411. Si jamais on trouvait un jour le chaînon manquant, il nous permettrait de comprendre comment s'est faite l'évolution entre cet araméen et décénien et le syriaque à proprement parler. Cette évolution est celle de l'écriture, mais elle est aussi celle de la langue, c'est-à-dire que l'araméen utilisé dans les inscriptions n'est pas exactement le même que celui que nous trouvons dans les textes littéraires, puisque dans les textes littéraires, on a déjà une standardisation de cette forme d'araméen appelée syriaque. Et le problème, bien évidemment, est que pour les écrits syriaques les plus anciens, je pense par exemple au livre des lois des pays de Bardezane d'Édesse. Nous avons le texte tel qu'il est aujourd'hui dans des manuscrits qui sont des manuscrits, quasiment des manuscrits médiévaux. Nous n'avons pas des manuscrits du IIIe siècle. Et donc nous ne savons pas dans quelle mesure la langue du livre des lois des pays a été standardisée pour rejoindre ce qui est habituel dans les textes littéraires. Donc nous ne savons pas non plus comment a évolué l'araméen entre l'araméen des documents et l'araméen syriaque des textes littéraires. Donc ce sont, si vous voulez, deux problèmes auxquels nous sommes confrontés concernant l'évolution de la langue et l'évolution de l'écriture. Ce qui est certain, c'est que le syriaque en 411 émerge comme une écriture livresque, et donc cela signifie que de manière déjà antérieure, on a travaillé sur l'écriture pour en faire une écriture calligraphiée et une écriture qui s'apprend. C'est-à-dire que j'avais, avec un calligraphe, organisé des ateliers avec des étudiants pour essayer de reproduire cet araméen, ce syriaque ancien, cet estranguela, pour essayer de voir comment on formait les lettres. Et c'est quelque chose qui s'apprend parce que les lettres ne sont pas formées d'un seul mouvement. On est obligé d'utiliser souvent deux mouvements pour les tracer, et on est obligé d'utiliser un kalam avec un bout arrondi, contrairement à ce que l'on pense d'après l'exemple, par exemple, de l'hébreu ou de l'arabe. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, cette écriture s'appelle estranguela, de strangulos en grec, arrondi, alors qu'elle a une allure plutôt carrée, mais des extrémités qui sont des extrémités arrondies. Et donc, cette écriture s'apprend. On apprend la régularité, on apprend à gérer les colonnes, on apprend à gérer l'espace de la page. Et donc, il y a des écoles de transmission qui sont, je vous le disais, ces monastères édesséniens dont se revendiquent les copistes. Et donc, on a, avec le passage de l'araméen édessénien au syriaque à proprement parler, un double mouvement qui est d'une part le fait que la langue est désormais la langue du christianisme, et on a très tôt des traductions de l'Ancien Testament à partir de l'hébreu, du Nouveau Testament à partir du grec, qui fondent, si vous voulez, le côté sacré du syriaque. Et désormais, le syriaque est utilisé comme langue standard pour les araméophones, alors que des formes d'araméen continuent certainement à être parlées dans leur diversité. C'est-à-dire que le syriaque devient la langue standard des chrétiens. Qu'est-ce que cela a comme conséquence sur les langues connexes ? Je laisse de côté ici le grec. Et je voudrais regarder avec vous une lettre écrite par un auteur syriaque qui s'appelle Philoxène de Mabougue, mort en 523, qui écrit au stratélate d'Al-Hira, Abu Yafur, et non pas Yafur, qui est donc un personnage important d'une oasis où les tribus arabes sont pour certaines d'entre elles christianisées, appartiennent ou bien à l'église de l'Est, l'église dite souvent nestorienne, mais appartiennent aussi pour certaines d'entre elles à l'église syriaque orthodoxe. Donc il faut penser, lorsqu'on pense au syriaque, non seulement à l'usage de la langue, mais aussi aux appartenances ecclésiastiques, puisqu'à partir du 5e siècle, les églises se divisent, se séparent de l'église byzantine et constituent des entités qui vont se constituer progressivement avec leur propre hiérarchie, leur propre patriarche, mais également leurs propres évêques, prêtres, moines, et donc réseau de sociabilité et réseau également savant. Donc Philoxène de Mabougue, qui appartient à l'église syriaque orthodoxe, écrit à ce stratélate. Et il lui parle de l'hérésie, selon lui, de l'hérésie nestorienne, c'est-à-dire de ce qu'il considère comme l'hérésie de l'église de l'Est, donc l'église qui s'est développée dans l'Empire perse, en Iran. Et il lui parle également des pratiques des tribus turques à son époque. Alors pourquoi parle-t-il des pratiques des tribus turques alors qu'il écrit à un stratélate arabe ? Vraisemblablement parce que la situation est similaire. C'est-à-dire que comment... alors, des tribus turques, c'est le terme qu'il utilise. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse à des tribus arabes, et donc il évoque un autre exemple pour savoir comment concrètement on fait pour célébrer quand on vit sous la tente, quand on est dans des régions où on n'a pas de pain et de vin. Et il évoque également la question de la langue. Et il explique que ces tribus, donc vous le voyez à l'écran, aiment célébrer les souvenirs des saints et des martyrs. Comme écriture, ils n'apprennent et n'acceptent que la nôtre. Et c'est avec cette écriture, celle de nous autres Syriens, c'est Sourioyé le terme qui est utilisé, qu'ils écrivent et lisent les écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, et les docteurs orthodoxes. Donc cela signifie que les écritures et les pères de l'Église sont lus en syriaque. Ils traduisent dans leurs assemblées les écritures en leur langue turque, mais ils ne consentent en aucune façon de changer en langue turque le vénérable nom de notre Seigneur Jésus Dieu et celui de Marie la Mère de Dieu. Ils les lisent telles quelles en notre langue syriaque. Donc ce passage semble faire référence à un phénomène de targoum, c'est-à-dire qu'on a une liturgie qui se fait en syriaque et une traduction dans les assemblées, donc une traduction orale, en langue locale. Il continue, « Quant au reste des mots et des noms propres, ils les traduisent en langue turque afin que toute leur assemblée comprenne ce qu'ils lisent et proclament. » Donc, quoi qu'il en soit, j'allais dire, du contexte de ce texte, puisqu'il est... Philoxène, évidemment, ne donne pas d'informations plus importantes que cela sur ces tribus. Il dit bien qu'elles ont été converties par l'Église de l'Est et non pas par l'Église syriaque orthodoxe. Et il écrit lui-même un stratélate qui se trouve dans un contexte où l'Église de l'Est est plus puissante, mieux répandue que l'Église syriaque orthodoxe. Donc là aussi, il y a une similarité, si vous voulez, entre l'exemple qu'il prend et la personne à laquelle il s'adresse. Il essaie donc de montrer qu'il est légitime de célébrer en syriaque et de traduire la liturgie dans une autre langue. Et en même temps, il n'encourage pas à la traduction dans une autre langue. Et peut-être a-t-on là un indice de la raison pour laquelle l'écriture arabe, dont on sait maintenant grâce aux travaux de Christian comme d'un certain nombre de collègues, que cette écriture est apparue beaucoup plus tôt que ce que l'on pensait, avant la période islamique, sans doute dans les années 470. Pourquoi cette écriture, de fait, a été inventée, mais finalement n'a pas accédé à un usage général? Les tribus arabes, lorsqu'elles sont dans un contexte politique, soit à la cour byzantine, soit à la cour sassanide, vont sans doute communiquer dans les langues qui sont les langues de l'Empire. Et là, la notion de cosmopolis est importante et se superpose et complétée par la notion de hiéroglossie. C'est-à-dire que ces tribus, dans le contexte des négociations dont elles sont souvent l'objet, puisque l'empereur byzantin et le roi sassanide discutent des conditions de ces tribus arabes, dans ce contexte-là, les langues d'usage, ce sont les langues d'empire, soit le grec, soit le moyen perse. Et nous avons dans les textes la mention de la présence de traducteurs. Nous savons que des documents étaient conservés en grec d'un côté, en moyen perse de l'autre. Ces tribus recevaient-elles une copie? Et si elles recevaient une copie, dans quelle langue? Mais en tout cas, elles n'étaient pas étrangères, si vous voulez, à l'usage d'autres langues, à l'écrit comme à l'oral. Et donc, on n'est pas du tout dans un contexte de tribus arabes à la période pré-islamique qui seraient illettrées, en tout cas pour un certain nombre des membres de ces tribus, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans ces négociations. Donc, d'un point de vue politique, la langue est soit le grec, soit le moyen perse, et donc l'arabe n'intervient pas comme une langue, évidemment, diplomatique. D'un point de vue religieux, ces tribus, lorsqu'elles sont converties au christianisme, vont utiliser le syriaque comme langue de liturgique, mais comme on le voit ici également, comme langue de communication avec la hiérarchie. Des lettres sont échangées entre l'Arabie du Sud et la Syrie du Nord, comme cela a été montré pour l'exemple des martyrs de Najran, notamment. Des lettres sont échangées et envoyées. Et cet exemple de Philoxène montre la même chose, c'est-à-dire qu'il envoie une lettre en syriaque à un stratélate des tribus arabes. Donc le syriaque est utilisé par la hiérarchie ecclésiastique pour communiquer avec les populations converties au christianisme. Le stratélate connaissait-il le syriaque? Ou bien avait-il recours à des prêtres ou des moines qui faisaient la traduction? Bien évidemment, nous n'en avons pas la moindre idée, puisque nous n'avons pas de mention à ce sujet. Mais ce qui est certain, c'est que cette lettre semble montrer qu'il n'y a pas un souci de traduire dans une autre langue que le syriaque, pour la raison qu'il s'agit de contrôler, de la part de la hiérarchie ecclésiastique, le contenu de la liturgie d'une part, mais également du message chrétien. C'est la raison pour laquelle on nous dit que le nom de Jésus et le nom de Marie ne sont pas traduits, mais sont repris du syriaque. On peut avoir des traductions de textes d'autres types, mais en tout cas pas la liturgie. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de compétition entre les églises, et il s'agit bien évidemment de vérifier le dogme adopté par les membres de ces églises. Et la lettre de Philoxène est tout entière une controverse contre l'Église de l'Est et contre les doctrines de l'Église de l'Est dans un contexte où cette Église était extrêmement puissante. Et c'est dans ce contexte-là qu'il écrit au stratélate. Donc on voit bien ici le rôle de langue religieuse que joue le syriaque, avec l'idée qu'il faut maintenir en syriaque ce qui est de l'ordre de l'essentiel du message chrétien, c'est-à-dire la lecture des Écritures et la liturgie, même si ensuite on peut envisager d'avoir une traduction de type oral. Et donc le lien entre langue écrite et langue orale est important dans ce contexte. C'est dans les milieux ecclésiastiques que se fait très largement la transmission du syriaque. Le syriaque a été utilisé à Édesse, mais on sait que déjà à l'époque de Jacques d'Édesse, au 7e siècle, on nous dit que seuls les habitants d'Édesse parlent le syriaque correctement. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie qu'en dehors d'Édesse, on parle sans doute d'autres dialectes araméens, pas nécessairement le syriaque, qui est devenu la langue standard, la langue de l'Église, et qui est standard parce qu'elle est transmise essentiellement dans les lieux d'enseignement de l'Église, c'est-à-dire dans les monastères et dans les écoles. Mais elle est transmise également de manière orale. J'ai écrit de manière un peu cryptique « manuscrit et collé ». Elle est transmise dans les manuscrits. Les collets, ce sont les tons sur lesquels on chante les textes liturgiques. Donc, on transmet dans les manuscrits des listes de collets, c'est-à-dire des listes de tons sur lesquels on chante, comme on dirait aujourd'hui, à chanter sur l'air 2, sur le pont d'Avignon. Et ici, tout le monde connaît sur le pont d'Avignon et peut chanter quelque chose sur le ton de sur le pont d'Avignon. Donc, ces listes de collets veulent dire quelque chose pour des gens qui ont été formés à l'apprentissage du chant de ces textes liturgiques. C'est-à-dire que l'enseignement est non seulement un enseignement écrit, mais surtout un enseignement oral, en particulier pour une langue sémitique où les voyelles ne sont pas écrites, il est important de mettre en voie le texte. Et donc, l'apprentissage se fait entre ceux qui savent et les étudiants qui apprennent en chantant. Et ces étudiants peuvent être des hommes ou des femmes, puisque dans la tradition ancienne de l'église, des églises syriaques, il y a ce qu'on appelle les fils et les filles du pacte, c'est-à-dire non pas des moines et des moniales à proprement parler, mais des consacrés pour le service de l'église, et qui donc étaient consacrés pour assurer la liturgie. Donc apprenez ces collets, apprenez les tons sur lesquels il fallait chanter la liturgie, et qui, accessoirement, pouvaient aussi avoir une connaissance écrites, des textes qu'ils apprenaient par cœur, et des chants qu'ils apprenaient par cœur. Dans le contexte de la mission vers l'Inde comme vers l'Asie centrale, on a traduit les textes qui étaient essentiels à la vie spirituelle, en particulier les psaumes. Nicolas M.C. Williams l'a déjà évoqué ce matin, mais également les cantiques. C'est-à-dire qu'en principe, la liturgie, toujours pour ces questions de contrôle dogmatique, reste en syriaque, mais on traduit ce qui est essentiel, et les psaumes le sont pour la formation des milieux ecclésiastiques. Je parlais du rôle des écoles. Les écoles sont très nombreuses dans l'Empire byzantin comme dans l'Empire perse et plus tard sous domination de l'islam. Elles sont attachées parfois à des monastères, mais ce sont aussi très souvent des écoles attachées à une église de village. Et elles sont importantes justement pour former d'abord à la liturgie. Donc c'est dans un contexte très particulier que se transmet cette langue syriaque, et c'est la raison pour laquelle elle reste relativement standardisée, à côté de la pratique éventuelle d'araméens locaux qui n'accèdent pas, du moins dans les périodes anciennes, au statut de langue, ni de langue religieuse, bien évidemment, ni même de langue culturelle. Les langues culturelles majeures sont le grec, puis l'arabe. Et lorsque l'arabe s'impose, on assiste à un phénomène tout à fait particulier qui a déjà été évoqué ce matin pour le sogdien, par exemple, c'est-à-dire à l'écriture en lettres syriaques de la langue arabe. C'est cela qu'on appelle le garchouni. Mais on a écrit également l'arménien en lettres syriaques ou le sogdien en langue syriaque. Donc on a d'autres phénomènes de ce type. Ce qui est important ici, ça n'est bien évidemment pas de cacher, mais au contraire de montrer que ces textes sont des textes chrétiens. Et pour le garchouni en particulier, puisque les textes sont en arabe. Et donc l'idée est bien de montrer que l'arabe n'est pas seulement la langue de l'islam, qu'elle est aussi la langue des chrétiens, en la mettant par écrit avec des lettres syriaques. Et donc on voit là, si vous voulez, un rapport intéressant à l'égard des langues connexes, puisque le syriaque est la langue classique qui est utilisée par des gens qui par ailleurs vont parler d'autres formes d'araméen, et y compris les néo-araméens. Et d'autre part, le syriaque demeure comme signe de langue religieuse en servant à noter d'autres langues qu'elle-même. Je voudrais dire un mot aussi de la dimension symbolique de cette écriture et de cette langue. En citant un petit passage de Jacques Dédès, qui au 7e siècle, dans une lettre qu'il écrit sur l'orthographe, pour donner des directives orthographiques à un supérieur de monastère, pour qu'il répande ses instructions, afin que les copistes copient en faisant moins de fautes de syriaque. Et notamment dans la manière dont ils transcrivent les mots d'origine grecque et d'origine latine. Et Jacques Dédès crée un parallèle entre la création et les membres du corps, et d'autre part, les lettres syriaques, puisqu'il dit que les lettres syriaques doivent comporter les points et les signes dont elles ont besoin, correctement placés, parce qu'il est aussi important que ces lettres soient bien tracées et que l'orthographe soit respectée, qu'il est important que les différents membres du corps soient harmonieusement disposés. Et pourquoi ? Parce que le corps est dû au Dieu créateur. Sous-entendu, l'écriture est aussi une manifestation de cette création et donc doit être prise au sérieux autant que l'a été l'acte créateur du corps humain. Lorsque beaucoup plus tard, au XIXe siècle, les néo-araméens parlés commencent à être mis par écrit, c'est cette idée d'un caractère sacré de la langue qui guide la manière dont on met par écrit ces néo-araméens. On les met par écrit sur le modèle du syriaque, parce que le syriaque est considéré encore à ce moment-là, ou de nouveau à ce moment-là, et en particulier sous l'impulsion des missionnaires occidentaux arrivés au Proche-Orient, comme une langue sacrée. Et donc, on va écrire ces néo-araméens en utilisant l'alphabet syriaque. Alors que d'une certaine manière, la langue n'est peut-être pas plus proche que ne l'est l'araméen juif, par exemple. Mais l'idée est de dire, cet araméen, c'est de l'araméen chrétien, c'est similaire à l'araméen classique des chrétiens qu'est le syriaque, et donc on utilise les lettres syriaques pour le mettre par écrit, parce que les missionnaires étaient persuadés que le syriaque était la langue du Christ. Et là encore, c'est quelque chose d'intéressant, puisque le Christ, ou en tout cas les quelques paroles qui nous ont été conservées dans les évangiles, sont en araméen de Palestine, et non pas en syriaque, ont été intégrées comme telles dans les traductions en syriaque. Donc on a de l'araméen palestinien intégré dans l'araméen édessénien syriaque, sans que ces paroles aient été modifiées. On aurait pu imaginer, par exemple, qu'on transforme ces paroles dans la forme d'araméen édessénien. Non, on les a conservées telles quelles parce qu'elles étaient autres, parce qu'elles n'appartenaient pas à la même famille linguistique, mais aussi parce qu'elles n'appartenaient pas au même monde culturel. Et donc, cette différence, si vous voulez, entre les araméens que l'on a dans les premiers siècles du christianisme, on la retrouve sous une forme un peu différente au XIXe siècle, au moment où l'on met par écrit les néo-araméens, et où du coup, on va prendre comme modèle le syriaque, mais en imaginant le syriaque comme étant la langue du Christ. Quelque chose que l'on continue à retrouver beaucoup dans les communautés et ailleurs. Pardon, je suis allée un peu vite. Le syriaque classique n'a pas totalement disparu. Je disais qu'il avait été transmis dans les milieux ecclésiastiques dans les périodes anciennes, mais c'est vrai encore aujourd'hui. On a fait des traductions du Petit Prince en syriaque, on a fait des traductions de Tintin en Amérique. Alors pourquoi Tintin en Amérique? Parce qu'il y a de nombreuses communautés installées à Chicago, et notamment le patriarche de l'église assyrienne. Et cette tradition est toujours vivante. Je vais voir si je peux arriver à vous faire écouter un tout petit bout de ceci. C'est un texte en... Je ne sais pas si le... Le micro est activé, peut-être pas le micro de l'ordinateur. Vous voyez au centre un évêque syriaque orthodoxe qui a écrit une soritha, c'est-à-dire un texte de préséance en syriaque classique pour célébrer Sébastien Brock, qui est un petit peu le pape des études syriaques, et qui a composé ce poème pour deux chœurs alternés que vous apercevez à sa droite et à sa gauche. Et ce texte a été chanté en Suède il y a une quinzaine de jours pour l'anniversaire de Sébastien Brock. Et donc on voit là la persistance, si vous voulez, de la création, alors qui est très résiduelle, mais intéressante néanmoins, de la création en syriaque classique d'un genre qui a été repris en syriaque, mais qui était présent en Mésopotamie ancienne dans les tablettes cunéiformes, que l'on trouve en vieux perse, en moyen perse, en syriaque et en néo-araméen, et donc qui est toujours source de création aujourd'hui dans les milieux ecclésiastiques. Tout simplement parce que ce moine, qui est aujourd'hui donc évêque des Pays-Bas, a été formé en Turquie dans un monastère où la langue était le syriaque. De même que les séminaristes en Europe ont été pendant longtemps formés en latin. Et donc ces membres de l'Église s'envoient des textos en syriaque parce qu'ils ont paramétré les téléphones pour qu'on puisse utiliser le syriaque. Et ils utilisent plus rarement, à vrai dire, le syriaque classique qu'ils n'utilisent les néo-araméens, soit de Turquie, soit d'Irak. Et le syriaque constitue, si vous voulez, un petit peu la langue commune de ces communautés qui parlent arabe d'un côté, turc de l'autre, touroyo, souroyo, des formes de néo-araméen différentes, et donc leur langue commune, c'est le syriaque. Je voudrais finir sur cette image de l'écriture et du corps évoquée à propos de Jacques Dédès. De manière intéressante, le moine que vous voyez sur la photo de droite, qui est le père Najim Mirael, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il est celui qui a mis à l'abri des milliers de manuscrits syriaques et d'archives au moment où Daesh est arrivé à Mossoul. Il les a déplacés dans le nord de l'Irak et on le voit là en train de transporter ces manuscrits qui sont un peu maltraités dans une brouette et dans une voiture. Et il a envoyé un camion entier, puis il est parti avec sa voiture, avec ses manuscrits. Et son discours est intéressant parce qu'il reprend en réalité quelque chose de très ancré dans la culture syriaque, c'est-à-dire qu'on ne peut sauver les peaux vivantes, c'est-à-dire les hommes, qu'en sauvant aussi les peaux mortes, c'est-à-dire les manuscrits, c'est-à-dire en permettant à ces communautés de se réimplanter, réancrer dans leur propre tradition et dans leur propre, langue d'origine, qui est le syriaque. Et cette idée, on la trouve de manière ancienne, puisque on parlait ce matin du fait que l'hébreu avait été considéré comme la langue du paradis, mais les auteurs syriaques considéraient que c'était le syriaque qui était la langue du paradis, la langue parlée par Dieu avec Adam et Ève. Et donc on a un recours à la Bible pour ancrer l'ancienneté de la langue syriaque à deux niveaux. Et c'est là que cosmopolitisme et hiéroglossie viennent de nouveau en dialogue, puisque les auteurs syriaques font appel à la Bible, d'une part pour dire que le syriaque était la langue du paradis, et d'autre part pour expliquer que les syriaques, en réalité, ont eu des États, ont eu des rois, ont eu des empires. Et ils font référence pour cela à l'épisode de Nabucodonosor dont nous parlions ce matin, c'est-à-dire au fait que les rois assyriens ont utilisé le syriaque, ont utilisé en tout cas l'araméen, et que donc ces souverains sont les ancêtres des communautés syriaques. Et que donc ces communautés ont eu aussi une histoire politique de manière ancienne, mais de manière intéressante, on va chercher cette légitimation politique, souvent d'ailleurs exprimée par des auteurs à la période islamique, c'est-à-dire au moment où les auteurs syriaques sont passés sous un nouveau régime politique et religieux. Donc ces auteurs vont chercher cette justification politique dans la Bible. Et donc c'est le texte sacré qui leur sert à légitimer l'existence, pour eux aussi, d'une royauté, puisque c'est la royauté qui légitime aussi la religion. C'est parce qu'on a des souverains qui ont adopté telle ou telle religion que cette religion est aussi, d'une certaine manière, sanctuarisée et légitimée. Et donc, les auteurs syriaques utilisent ce double paradigme, mais avec l'idée en même temps que l'on trouve dans un texte du 5e siècle, la doctrine de l'apôtre Adai, avec cette idée que le syriaque est peut-être la langue du paradis. Tous les auteurs ne sont pas d'accord. Jacques Dédès, au 7e siècle, dit que c'est l'hébreu. Donc on a au sein même des communautés des discussions sur ces sujets. Mais c'est l'idée que la langue est plus que la langue et l'écriture, qu'elle est aussi un rapport à l'homme, qu'elle est aussi une anthropologie, qu'elle a aussi une dimension spirituelle extrêmement forte. Et ce texte, qui est rarement cité, quand on parle de la doctrine d'Adai, on pense toujours à la correspondance entre Jésus et le roi Abgar. Mais ce passage est très intéressant. C'est en quelque sorte le testament d'Adai, l'apôtre envoyé par Jésus auprès du roi Abgar d'Édès, dans lequel il dit ceci. « Tout ce pourquoi notre Seigneur est venu dans le monde, c'est pour nous enseigner et nous démontrer qu'à la consommation de la création, il y aura une résurrection de tous les hommes. » Et qu'à ce moment-là, leurs conduites seront dépeintes sur leurs personnes et que leurs corps seront les rouleaux des registres de justice. Là, personne qui ne sache l'art d'écrire, puisque chacun, ce jour-là, lira les écrits de son propre livre et fera le compte de ses actions sur les doigts de ses mains. de sorte que même les ignorants connaîtront la nouvelle écriture de la nouvelle langue, et qu'il n'y aura personne pour dire à son voisin « lis-moi ceci », parce qu'un seul enseignement et une seule langue régneront sur tous les hommes. Donc ce texte est intéressant parce qu'il part du principe que tout le monde ne sait pas lire, ce qui est bien évidemment une réalité dans ces périodes. Mais il part aussi de l'idée que l'écriture ultime va au-delà de l'écriture incarnée dans les formes des lettres syriaques, puisque à la fin des temps, dans une démarche symbolique et presque mystique, on a une nouvelle écriture qui est en réalité les actes des êtres humains inscrits sur leur corps. Et donc ce rapport entre la peau et le corps et l'écriture est quelque chose que l'on peut suivre jusqu'à la manière dont le père Najib peut en parler aujourd'hui dans la tradition syriaque. C'est-à-dire l'idée d'une langue qui est une langue sacrée parce qu'elle est la langue du christianisme, mais puisqu'elle est la langue du christianisme, alors d'une certaine manière elle est dépassée aussi en tant que langue, parce que ce qui est important, ce sont les actes et le fait d'être jugé par les actes, qui ne sont pas seulement une mise par écrit, et en tout cas certainement pas seulement une mise par écrit en syriaque. Et donc ce texte montre aussi la limite, si vous voulez, de cette conception du syriaque comme langue sacrée. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Je vous remercie.